Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Vous avez la parole dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur une éventuelle adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel. Cette hypothèse évoquée par le ministre des Affaires étrangères du Togo vous semble-t-elle crédible? Mais d'abord le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, à peine installé à la Maison Blanche, cette avalanche de décrets signés par Donald Trump, sortie des accords de Paris sur le climat, de l'Organisation mondiale de la santé, immigration. Retour dans un instant sur les moments forts de l'investiture du 47e président américain. Nous irons aussi à Atlanta, en Géorgie, l'un des états clés qui a voté Trump lors de la présidentielle. Les républicains y ont organisé une grande fête hier. RFI y était. Au sommaire également, cette exclue RFI qui s'est entretenue avec le fils de Muammar Kadhafi. Il livre sa version des faits dans l'affaire du financement présumé libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Et puis 2025, année internationale pour la préservation des glaciers. Si la mission s'annonce plus que compliquée, le prélèvement d'échantillons se révèle essentiel. Explication dans ce journal. Deuxième journée à la Maison-Blanche pour Donald Trump, qui doit se rendre dans la matinée à la cathédrale nationale de Washington pour un service religieux, un programme qui dénote avec son retour en trombe hier, salué par des milliers de fans, et la série de décrets chocs qu'il a signés dans la nuit. État d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique, grâce pour des centaines d'assaillants du Capitole le 6 janvier 2021, report de 75 jours pour la loi interdisant TikTok ou encore retour en arrière sur le retrait de Cuba de la liste noire des pays soutenant le terrorisme, une série de mesures prises juste après son discours inaugural d'une trentaine de minutes dans la rotonde du Capitole. Retour sur cette journée historique avec Guillaume Nodin.
C'est un chapeau, mais c'est peut-être surtout un message. Le couvre-chef noir à bande blanche de Melania Trump empêche de voir ses yeux et de deviner l'humeur de la première dame que l'on imagine un peu maussade. Ce chapeau bien large a un autre avantage, il éloigne les importuns qui auraient l'idée de s'approcher pour l'embrasser, fût-il son mari et le nouveau président des États-Unis. Ce chapeau, elle ne le quitte pas de la journée. Quant avec Donald Trump, qui vient dans son discours d'accuser ses prédécesseurs de trahison, de corruption et d'incompétence, elle tourne les talons avant que la porte de l'hélicoptère qui emporte le couple Biden se referme. Elle le garde y compris quand la famille présidentielle passe par la Capitol One Arena, où le milliardaire et sympathisant d'extrême droite Elon Musk vient de remercier la foule d'un bras tendu qui peut être diversement interprété. Là, Donald Trump commence à signer des décrets en public, une première, des décrets qu'il continue à signer plus tard à son retour à la Maison Blanche, notamment celui qui gracie les émeutiers du 6 janvier. À quelques kilomètres de là, leurs amis devant la prison de Washington manifestent leur joie. Ils portent des casquettes rouges, pas des chapeaux signés des meilleurs créateurs. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et ces décrets signés, ce sont des promesses de campagne qu'il a répétées lors de son discours d'investiture. L'âge d'or de l'Amérique commence, a déclaré Donald Trump lors de cette prise de parole. Il s'est aussi vanté de ses résultats et de sa victoire dans les 7 états clés, les swing states. La Géorgie en fait partie. Reportage à Atlanta d'Edouard Maille.
Une organisation républicaine a réservé une salle dans un restaurant. La cérémonie est retransmise. Une cinquantaine de personnes applaudissent les promesses du président, entouré d'amis, béquilles et aux anges.
Je n'ai jamais eu autant d'espoir. Je ressens tellement d'amour pour ce pays et encore plus pour le peuple de notre nation.
Pendant l'hymne national, Dale, 85 ans, fait le salut militaire. Le vétéran voit Donald Trump comme un véritable héros.
Avec les qualités qu'il semble avoir pour diriger, c'est un des rares chefs que j'ai vu dans ma vie. Il me rappelle une version civile de George Patton, le chef militaire qui a permis la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump semble nous sauver du bord du précipice où l'on se trouve.
Didi, 72 ans, profite du buffet et célèbre le retour de Donald Trump pour l'avenir du pays.
Que le pays retrouve sa grandeur. À mes yeux, c'est le meilleur pays du monde entier et on établit la norme pour les autres. Beaucoup veulent cette liberté et ces possibilités.
Elle espère que tous les Américains réaliseront que leur vie peut s'améliorer, peu importe leurs convictions politiques. Edouard May, Atlanta, RFI.
Et autre promesse de Donald Trump qui, elle, reste en suspens, du moins pour le moment, l'instauration de droits de douane de l'ordre de 25% sur le Mexique et le Canada, pourtant théoriquement protégés par un accord de libre-échange qui avait été signé pendant son premier mandat. Les précisions à Québec de Pascal Guéricola.
Pour la ministre des Affaires étrangères, il faut défendre les intérêts des Canadiens et défendre les emplois. Mélanie Joly a rappelé que cela passait par la protection de la frontière, pour laquelle son gouvernement a prévu d'investir un budget d'un milliard d'euros environ. Un peu plus tôt dans la soirée, le président Donald Trump accusait pourtant le Canada d'abuser des États-Unis en laissant passer trop de gens et de la drogue comme le fentanyl. Et il entend donc imposer 25% sur les biens provenant de ce pays. Le gouvernement canadien espère encore renverser cette décision. S'il n'y parvient pas, il pourrait taxer à son tour des produits américains comme le jus d'orange de Floride ou le bourbon, un whisky de l'État du Kentucky. Des mesures concernant l'imposition d'autres biens américains font aussi partie de la possible réplique canadienne. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
C'est une information RFI. Saïf al-Islam Kadhafi sort du silence dans un échange écrit avec RFI. Le fils du colonel Muammar Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il affirme avoir supervisé lui-même la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Saïf al-Islam Kadhafi assure aussi que le clan de l'ancien président l'a approché 3 fois pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire, Ouda Ibrahim.
Selon Saïf al-Islam, la première demande pour qu'il modifie son témoignage concernant Nicolas Sarkozy a été formulée en 2021 par l'intermédiaire de Souhal Badri, consultante et communicante à Paris. On lui aurait, affirme-t-il, proposé de nier tout ce qui se dit d'un soutien libyen de Sarkozy pour les élections. En échange de quoi, les procédures qui le visent devant la CPI auraient été arrêtées. Un nouvel émissaire de Nicolas Sarkozy, affirme Saïf al-Islam, approche sa famille fin 2022 en s'adressant cette fois-ci à Hannibal Kadhafi, son jeune frère, emprisonné depuis 2015 au Liban. L'intermédiaire s'appelle alors, selon lui, Noël Dubus, par ailleurs cité dans ce dossier. Ce dernier précise le fils du colonel Kadhafi se serait rendu à Beyrouth et aurait exercé des pressions sur Hannibal, lui assurant sa libération si Saïf al-Islam changeait son témoignage en faveur de Sarkozy. Saïf al-Islam affirme qu'une troisième tentative à une date ultérieure non précisée a été effectuée par l'intermédiaire d'un Français d'origine arabe dont il n'a pas voulu révéler l'identité. Le fils du guide libyen soutient qu'il a catégoriquement refusé de donner suite à toutes ces demandes.
Et dans 30 minutes, vous entendrez la réponse des avocats de Nicolas Sarkozy. Tous les détails de cet échange entre RFI et Saïf al-Islam Kadhafi sont à retrouver sur RFI.fr. Et puis alors que l'année 2024 a été la plus chaude jamais mesurée depuis 1850, 2025 s'annonce comme cruciale pour l'avenir des glaciers. Les Nations Unies ont même décidé d'en faire l'année internationale pour leur préservation. Une mission quasi impossible. Alors la nécessité maintenant, c'est de prélever des échantillons. Les explications à Genève pour RFI de Jérémy Lanche.
Un chiffre résume à lui seul l'ampleur de la fonte des glaciers. En Suisse, on estime qu'ils ont perdu 10% de leur masse rien qu'en 2022 et 2023. Des glaciers qui disparaissent, c'est entre autres une mémoire qui disparaît, explique le glaciologue Jérôme Chaplat. Le professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne est aussi président de la fondation Ice Memory. Son objectif, conserver les carottages d'au moins 20 glaciers dans le monde.
Quand on produit un cylindre de glace d'environ 10 cm de diamètre, on peut raconter l'histoire du volcanisme, par exemple. On peut raconter l'histoire de l'activité solaire. On peut raconter l'histoire des pollutions d'origine humaine. Donc c'est vraiment une espèce de bibliothèque naturelle.
Une bibliothèque pour décoder le passé et aussi préparer le futur. Les glaciers renferment des quantités de micro-organismes dont on ne sait presque rien, mais qui pourraient nous permettre de créer de futurs médicaments, par exemple, à condition de les sauver à temps.
On vise un glacier qui est à la frontière entre le Canada et l'Alaska, où on a observé un réchauffement de 5 degrés dans le glacier au cours des derniers 10 ans. On sait que dans une décennie, probablement, le glacier sera devenu impropre à ce type d'études.
Mais où stocker ces carottes de glace ? Pas en Europe, mais en Antarctique, sur la base franco-italienne de Concordia. Température annuelle moyenne, moins 55 degrés. Parfait pour créer la première banque mondiale des glaciers. Elle doit accueillir les premiers échantillons, si tout va bien, d'ici à la fin de l'année. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Il est 9h10 à Paris, 1h demain en temps universel et à Lomé. On vous retrouve, Juan Gomez.
Merci, c'était le journal d'Alban Le Prince. Restez avec nous, l'info en continu, c'est sur nos environnements numériques, sur le site RFI.fr. Et dans 30 secondes, comme tous les matins, RFI vous donnera la parole.